save big money on your next project. Now at Menards. Brighten up your garage or workspaces with LED utility and panel light bulbs from GT Light. GT Light light bulbs are energy efficient, and with their easy adjustable light panels, you can direct light where you need it most. Save big on all GT industrial utility and panel light bulbs. And don't forget to check out our weekly flyer for more hot deals happening now.
Save big money at Menards.
Fall into big savings, all in the Kroger app. Get packs of juicy red, green, black, or tricolor variety seedless grapes for $3.99 each. Then get tender boneless chuck roast or steaks for $4.99 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Cinquième section de l'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou, par le baron de Lempezé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Deuxième leçon, de l'amortissement. Principe, vérité, préjugé, manière diverse de payer ou d'éteindre les dettes de quelque nature qu'elles soient, de la prescription, moyen légal enseigné par le code, danger des acomptes, lettre de mon oncle, mauvais effet des remboursements en argent, satisfaction des créanciers. En principe, vous devez tâcher de vous faire de tous vos créanciers des amis qui vous aiment véritablement et vous le prouvent en continuant de vous faire crédit. Faites en sorte qu'ils soient plus que tous les autres intéressés à la conservation de vos jours, qu'ils s'inquiètent si vous avez un rhume, ne serait-il que de cerveau, et qu'ils tremblent s'il vous arrive une fluxion de poitrine. Si par hasard vous vous avisiez de les payer, ou seulement de leur donner un acompte en argent, vous les désintéresseriez complètement, et vous les verriez changer leur tendre sollicitude contre une profonde indifférence. S'il vous arrivait de leur faire un règlement, un billet, un engagement quelconque, rencontrant un de vos intimes amis, ou se trouvant dans un endroit où il serait question de vous, il ne demanderait pas seulement de vos nouvelles. L'argent que vous pourriez leur donner en fait tout à coup des êtres froids et indifférents. Tout ce que je puis vous passer dans cette circonstance, c'est de leur promettre purement et simplement, sans désignation de termes fixes. De cette manière, vous entretiendrez chez eux ces affections douces qui font le charme de la vie, et augmente encore le crédit qu'on peut avoir. Il est une vérité incontestable que mon oncle a omise dans ses pensées détachées. C'est qu'il vaut mieux être sans le sou que sans crédit. Cependant, il existe un préjugé fortement enraciné, c'est que, tôt ou tard, il faut finir par payer. Voilà ce qui perd les consommateurs. Car du moment où vous payez, vous n'avez plus de crédit. Commencez donc par ne jamais payer, et finissez de même. Vous m'en direz de bonnes nouvelles. Si à 20 ans vous jouissez d'un crédit de 20 000 francs, et que vous suiviez toujours cette méthode, vous êtes sûr d'en avoir un de 100 000 francs, lorsque vous aurez atteint votre 40e année. Quoi qu'il en soit, les dettes peuvent s'acquitter ou s'amortir de 8 manières différentes. Savoir, premièrement, par le paiement, c'est sans contredit, la façon la plus simple de les acquitter. Mais en suivant cette méthode, l'ouvrage de mon oncle devient inutile. Deuxièmement, par compensation d'une ou plusieurs dettes, avec une ou plusieurs autres. Cette espèce d'amortissement, assez avantageuse aux débiteurs qui y raisonnent, s'appelle embrouillage. Troisièmement, par la remise volontaire que fait le créancier. Je ferai seulement observer que ce n'est presque jamais volontairement. Quatrièmement, par la confusion qui se fait des qualités de créancier avec celles de débiteur en une même personne. Le temps et la patience sont les seules monnaies avec lesquelles cette nature de dette doivent s'acquitter. Cinquièmement, par une consignation valable. Même réflexion qu'à ma première manière. Sixièmement, par une fin de non-recevoir, ou prescription. Note. Fin de non-recevoir dans cette acception signifie qu'un débiteur n'est pas recevable à intenter une action à son créancier. La prescription est un moyen d'acquérir la propriété d'une chose par la possession, non interrompue pendant le temps accordé par la loi. Dictionnaire de l'Académie. Par exemple, votre propriétaire néglige de réclamer de vous, pendant 3 termes, la somme que vous pouvez lui devoir, ou plutôt, vous oubliez de remplir vis-à-vis de lui, et à chaque fin de terme, cette formalité usitée. Le 4e terme commencé, il n'a rien à vous réclamer au terme de la loi, parce que vous le remboursez avec la prescription, c'est-à-dire sans qu'il vous en coûte un sou. Dans les hôtels garnis, il y a prescription au bout de 6 mois, c'est-à-dire que le 7e commencé, vous avez de droit votre quittance et souvent votre congé en même temps, ce qui fait un double avantage. Cette méthode est tellement excellente que nous lui consacrerons plus bas quelques réflexions. 7. Par la décharge que le débiteur obtient en justice. Mauvais moyen qu'on ne doit même jamais tenter, parce qu'en supposant que vous n'obteniez pas gain de cause, la justice s'institue votre créancière, et vous êtes bien forcé d'en passer par où elle veut, ou à peu près, à moins cependant que les choses se passent en Normandie. 8. Enfin, par la mort du débiteur, toutefois après avoir été reconnu et déclaré insolvable, ou encore par celle du créancier, s'il ne possède aucun titre écrit. Il est à remarquer que les 7/8 de dettes contractées s'éteignent naturellement de cette manière, par la raison plus naturelle encore, que le débiteur ou le créancier s'éteignent à leur tour après un laps de temps voulu. Cela dépend beaucoup de l'âge des uns et de la patience des autres. J'ai dit tout à l'heure que la prescription était un des moyens légaux et les plus efficaces pour payer ses créanciers et s'acquitter envers eux de toute manière sans leur donner un sou. Cette assertion est facile à prouver par l'article 2271 du Code civil, livre 3, titre 20, qui est la seule monnaie que vous puissiez leur offrir et dont ils sont forcés de se contenter. Ainsi, vous voulez vous loger, vous nourrir, vous instruire et de plus, par une sollicitude toute philanthropique, donner de l'occupation aux artistes et aux gens de lettres qui n'en ont guère dans ce moment, le tout, je le répète, sans débourser un sou. Eh bien, ne vous en faites pas faute. Le propriétaire, le restaurateur, l'instituteur, le peintre et le poète se sont payés eux-mêmes lorsqu'ils ont attendu 6 mois. Vous pouvez donc aller loger à l'hôtel Meurice, déjeuner et dîner tous les jours au Palais Royal, chez Châtelain, apprendre l'anglais ou l'allemand, faire votre portrait par Millet ou Madame Salvator Callot, et adresser des vers à votre maîtresse par l'entremise d'un de nos premiers versificateurs, si vous ne savez pas les faire vous-même, tout cela pour la somme de 2 francs que coûtent les 5 codes que vous achèterez et payerez de la même manière au libraire, afin d'y étudier et d'y approfondir à votre aise ce sublime article 2271 qui est à lui tout seul une mine d'or, une véritable source de prospérité. J'ai dit, au commencement de cette leçon, qu'il fallait bien se garder de jamais donner le plus léger acompte à ses créanciers, sous peine de se voir retirer tout à coup son crédit. Mon oncle prouve cette assertion d'une manière si victorieuse que je crois devoir, pour en donner un exemple frappant, le laisser parler lui-même. « À mon retour des eaux de plombière, m'écrivait-il, je vécus durant toute une année chez un vertueux restaurateur du faubourg Saint-Germain, qui se contentait de porter tous mes repas en compte. Après plus de 365 jours d'assiduité, étant déjà son débiteur de près de 1400 francs, je tombai malade tout à coup. Mais combien fut grande mon émotion lorsque je vis cet honnête traiteur entrer chez moi le lendemain matin, accompagné de son médecin, avantageusement connu dans la capitale par les cures merveilleuses qu'il y avait opérées sans sangsue ni lavement. Mon amphitryon me serre affectueusement la main. Une tendre inquiétude se peignait dans tous ses regards. Je me laisse tâter le pouls. Il demande à son Esculape si ma maladie devait être sérieuse et, sur sa réponse négative, il eut beaucoup de peine à le tranquilliser. Pour m'acquitter envers le restaurateur, autant que je le pouvais, et toujours d'après la méthode dont j'ai tâché de lui faire entrer les premiers principes dans la tête, je consentis à lui montrer ma langue qui, n'étant pas mauvaise, annonçait un estomac sain. Le docteur ayant déclaré que la diète prolongerait ma faiblesse et que j'avais, au contraire, besoin de suivre un régime réconfortant, quelle fut ma reconnaissance lorsque, le soir du même jour, on vint me présenter, de la part de mon sensible restaurateur, un bouillon, ou plutôt une quintessence de jus de viande. Et pendant 8 mortels jours que dura ma maladie, il me destina tous les matins les prémices de son vaste pot-au-feu, du moins si j'en dois croire les yeux d'or qui se balançaient à sa surface. Il accompagnait cela d'une paire de côtelettes panées qui n'auraient pas été indignes d'une mâchoire éligible et d'un flacon d'un bordeaux généreux. Ce régime me remit bientôt sur pied. Aussi ma reconnaissance me conduisit-elle d'abord au restaurant de mon second père nourricier, qui fut enchanté de me voir attablé. Là, et en sa présence, je fis le premier essai de mes forces sur un filet de chevreuil sauté au vin de Madère, et je les éprouvai tout à fait sur une moitié de poulet à la maringo. Une bouteille de mercuret me donna du courage entre le chester et le mocha. Ma victoire fut complète, et je la couronnai par un verre de marasquin. Si tu avais vu avec quelle satisfaction ce véritable ami admirait ses mouvements répétés du poignet et du coude, comme il l'applaudissait à l'élasticité de la mâchoire inférieure, à cette longue haleine, gage de son unique sécurité. Dès ce moment, mon crédit fut illimité, et mon producteur aux anges. Impossible d'être plus enchanté. Ce fragment de lettre de mon oncle prouva assez le résultat d'une dette constamment entretenue. Le plus léger raconte aurait tout gâté. Mais s'il fallait enfin citer un exemple fameux du mauvais effet des remboursements, je rappellerais ici le projet de loi que la Chambre des députés avait adopté et que la Chambre des pairs, dans la haute sagesse dont elle a donné des preuves si éclatantes depuis, rejeta aux acclamations de toute la France. Elle n'ignorait pas combien les remboursements, de quelque nature qu'ils soient, sont désastreux. Rembourser un créancier, c'est en faire une statue, c'est paralyser tous ses moyens, c'est tuer le commerce. Fin de la section 5, enregistrée par Ezoa en Belgique en mai 2010. Sixième section de l'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou, par le baron de Lempezé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Troisième leçon, des créanciers. Différentes sortes de créanciers. Tous ne se ressemblent pas. À qui appartient-il de prendre le titre de créancier? En vertu de quel droit? Permission dont peuvent user les créanciers. Ce qui leur est défendu. Coutumes diverses. Terre classique des créanciers. Parmi les créanciers que l'on peut avoir, il s'en trouve toujours quelques-uns, gens débonnaires et sensibles, qui finissent quelquefois par s'attacher au débiteur qui ne les a jamais payés. On en a vu devenir son ami intime, s'affecter des embarras et des soucis où il le voyait plonger, et pleurer de tendresse aux témoignages de reconnaissance qu'il lui prodiguait. C'est un genre d'hommes excellents. Une fois qu'ils vous ont pris en affection, il n'y a pas moyen de vous en débarrasser. C'est un changement qui s'opère dans le moral. Ces sortes de créanciers, fort rares d'ailleurs, ont pris de vous recevoir chez eux ou d'aller vous voir une telle habitude qu'il manquerait quelque chose à leur bien-être s'ils restaient 24 heures sans pouvoir vous parler. Votre figure semble leur faire nécessité. Mais ne vous y fiez pas. Tous ne sont pas de même et, pour ma part, j'en connais bon nombre qui n'ont pas des idées toutes aussi philanthropiques. Avant tout, apprenez donc ce que c'est qu'un créancier proprement dit, et sachez, comme un naturaliste, distinguer les classes, les genres et les espèces. On appelle créancier l'individu auquel il est dû quelque chose par un autre, comme une somme d'argent, une rente, des denrées, et en général, toute pièce de fourniture que ce puisse être, à quelque titre et pour quelque raison que ce soit. Cependant, pour pouvoir se dire véritablement créancier de quelqu'un, il faut que celui qu'on prétend être son débiteur ait été réellement obligé, et ce, naturellement. On devient créancier en vertu d'un contrat, d'un billet, d'une reconnaissance, d'un jugement, d'un délit, etc., etc. Creditorum appellatione, dit la loi 11, feuillet de verborum obligatione, non itantum accipientur qui pecuniam crediderunt, sedamus quibus exqualibet causa debetur. Tous créanciers sont chirographaires. Note, c'est-à-dire hypothécaires, et les uns ou les autres sont ordinaires ou privilégiés. Un créancier peut avoir plusieurs actions pour la même créance, savoir une action personnelle contre l'obligé ou ses héritiers, une action réelle s'il s'agit d'une créance foncière, une action hypothécaire contre les tiers détenteurs d'héritage hypothéqué à la dette. Il est permis au créancier, pour se procurer son paiement, de cumuler toutes les poursuites qu'il a droit d'exercer, comme de faire des saisies opposition, etc., etc., pourvu qu'il s'agisse au moins d'une somme de plus de 100 francs, et d'user aussi de la contrainte par corps, si le titre de sa créance l'y autorise. Note, voyez ma leçon qui traite exclusivement de la contrainte par corps. Mais il n'est point permis au créancier de se mettre de sa propre autorité en possession des biens, meubles ou immeubles, de son débiteur. Il faut qu'il les fasse saisir d'abord, puis vendre après, le tout par autorité de justice. La raison en est que le créancier n'a aucun droit dans la chose qui appartient à son débiteur. Il n'a pas sur cette chose ce que les jurisconsultes appellent « jus in re », il n'a droit qu'à la chose « jus ad rem ». C'est-à-dire qu'il n'a que la puissance de poursuivre son débiteur ou ses héritiers à le payer ou à lui restituer la dite chose. On ne peut contraindre un créancier à morceler sa dette, c'est-à-dire à recevoir une partie de ce qui lui est dû, ni de recevoir en paiement une chose pour une autre, ni d'accepter une délégation et de recevoir son paiement dans un autre lieu que celui où il doit être fait. Lorsque plusieurs prêtent conjointement quelque chose, chacun d'eux n'est censé créancier que de sa part personnelle, à moins qu'on ait expressément stipulé qu'ils seront tous créanciers solidaires et que chacun d'eux pourra seul, pour tous les autres, exiger la totalité de la dette. La qualité de créancier est un moyen de reproche contre la déposition d'un témoin. Ce serait aussi un moyen de récusation contre un arbitre et contre un juge. Il faut encore remarquer ici quelques usages singuliers qui se pratiquaient autrefois par rapport aux créanciers. À Bourges, un créancier pouvait se saisir des effets de sa caution et les retenir pour gage sans la permission du prévôt ou du voyer. Note, le prévôt était autrefois un juge royal qui connaissait des causes entre les habitants privilégiés et ceux qui ne l'étaient pas, et jugeait s'il fallait qu'elles fussent appelées au Parlement ou non. Les voyers étaient des officiers préposés à la police des chemises à la campagne et à la ville. Cette charge existe toujours sous la même qualification, mais ils ont chacun des attributions spéciales. Tous les bourgeois de Chartres jouissaient des mêmes privilèges. En poursuivant le paiement de sa dette à Orléans, le créancier ne payait aucun droit, se considérant comme étranger. En Normandie, c'était tout le contraire. Mais il était en quelque sorte plus difficile à la justice de se faire payer de ses droits par un créancier que de faire payer un créancier par son débiteur. On sait au surplus que, de tout temps, la Normandie a été la terre natale et classique et des débiteurs et des créanciers. Fin de la section 6, enregistrée par Ezoy en Belgique en mai 2010. Septième section de l'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou, par le baron de Lempezé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Quatrième leçon, des débiteurs. L'Alexandre des débiteurs. Qu'est-ce qu'un débiteur? Droits et prérogatives accordées aux débiteurs. Coutumes juives, indiennes, orientales et françaises. Lois diverses concernant les débiteurs. Usages reçus. Mon oncle a été très lié avec un débiteur célèbre que nous connaissons tous, qui a dû et doit encore plusieurs millions. C'est un de ces gaillards dont aucun créancier ne peut se vanter d'avoir su jamais tirer un sou. Lui, tout au contraire, roule sur l'or et l'argent. Il a fait des fournitures aux divers gouvernements de l'Europe, a avancé des capitaux aux monarques qui n'en avaient pas, car la classe des honnêtes gens sans argent est immense, et dans ce dernier temps, il a gagné, dans une seule campagne, jusqu'à 1 200 francs par heure. Il est malheureux pour lui que cet état de choses n'ait duré que 3 mois. Cet individu est parvenu à s'isoler tellement des lois et ordonnances de commerce qu'il est insaisissable dans sa personne comme dans ses écus. Il a à son service des mannequins et des hommes de paille et n'a pris une femme que pour en faire un prête-nom. Faut-il recevoir, prendre, accaparer, soumissionner même? Le gouvernement le trouve toujours sous sa main en chair et en os. Faut-il payer? il n'est plus qu'une vapeur ou une chimère du genre de celle que poursuivent bon nombre de romantiques qui n'ont rien de commun avec ce type des débiteurs. Cependant, il n'est pas sans avoir été visité l'utile établissement si honorablement mentionné dans ma 10e leçon. Mais on a prétendu que c'était simplement pour la forme et pour prendre connaissance des lieux. Malheureusement, il n'existe que peu de débiteurs de cette trempe, et tous les malheureux consommateurs, pour lesquels j'écris, sont loin d'avoir les moyens nécessaires pour pouvoir opérer d'eux-mêmes. Or, il faut ici que j'explique ce que c'est qu'un débiteur et quels sont les cas où l'on peut être considéré comme tel. L'on appelle débiteur celui qui doit quelque chose à un autre. Le débiteur est appelé dans les lois romaines debitor ou reus debendi, reus promittendi, et quelquefois reus simplement. Mais il faut prendre garde que ce mot reus, quand il est seul ou isolé, signifie quelquefois le coupable ou l'accusé, c'est-à-dire le débiteur ou le créancier. L'écriture défend au créancier de vexer son débiteur et de l'opprimer, soit par des usures, soit par de mauvaises paroles. Note, Exode chapitre 22, verset 25. Ce précepte a cependant été constamment mal pratiqué chez les nations tant anciennes que modernes. Chez les Juifs, par exemple, le créancier pouvait, faute de paiement, faire emprisonner son débiteur et même faire vendre lui, sa femme et ses enfants. Le débiteur devenait en ce cas l'esclave de son créancier. En Turquie, les choses étaient encore pires. Un créancier musulman avait le droit de faire empaler son débiteur, quoique musulman comme lui, après le temps de la promesse de paiement expirée. Si le débiteur était ou grec ou juif, chrétien catholique romain, à plus forte raison, il pouvait le faire empaler sans savon, en ayant soin toutefois d'en faire sa déclaration aux autorités compétentes. Note, voyez l'histoire de l'Empire ottoman. La loi des 12 tables était encore plus sévère, car elle permettait de déchirer en pièces les débiteurs et d'en distribuer les membres aux créanciers par forme de remboursement au marle franc. Mais s'il n'y avait qu'un créancier, il ne pouvait ôter la vie à son débiteur. Il pouvait seulement le faire vendre aux enchères sur le marché public. Dans l'Inde, les créanciers n'étaient pas si mal élevés. Ils se contentaient de coucher avec la femme ou une des filles de son débiteur, à son choix. Mais ils ne pouvaient le faire qu'une seule fois. Note, Histoire civile et commerciale des Indes, par le traducteur des Voyages d'Arthur Young. Un coup de tête de cette nature coûtait souvent fort cher aux créanciers amoureux. C'est sans doute de cet usage que nous est venu le proverbe « se payer sur la bête ». Le pouvoir de rendre son débiteur insolvable et celui de le retenir en servitude dans sa maison fut ôté aux créanciers par le tribun Petilius qui fit ordonner que le débiteur ne pourrait plus être adjugé comme esclave aux créanciers. Cette loi fut renouvelée et amplifiée 700 ans après par l'empereur Dioclétien qui prohiba totalement ce genre de servitude temporelle appelée « nexus » et dont il est parlé dans la loi « ob es alienum codice de obligat ». Les créanciers depuis l'an 428 de Rome ont seulement eu la faculté de retenir leurs débiteurs dans une prison publique jusqu'à ce qu'ils eussent payé. Tout ceci vient à l'appui de l'assertion de mon respectable oncle qui prétendait que les créanciers étaient aussi anciens que le monde et que du moment où il y eut deux hommes sur la terre, l'un des deux devint nécessairement créancier de l'autre. Jules César, touché de commisération pour les débiteurs malheureux, leur accorda le bénéfice de cession afin qu'ils puissent se tirer de captivité en abandonnant tous leurs biens et qu'ils ne perdissent pas toute espérance de se rétablir à l'avenir. Ainsi, la peine de mort et de servitude étant abolie, il ne resta plus contre le débiteur que la contrainte par corps, et Dieu sait si, depuis les créanciers de ce temps-là jusqu'aux créanciers de ce temps-ci, ces messieurs ont largement usé de la loi de Jules César, qui paraîtrait encore être en vigueur aujourd'hui plus que jamais. Et voilà comme les bonnes institutions s'éteignent promptement, tandis que les mauvaises semblent ressusciter. Cependant, chez les Gaulois, les gens du peuple qui ne pouvaient point payer leurs dettes se donnaient en servitude, c'est ce que les Latins appelaient « addicti homines », tandis qu'à Rome, le débiteur qui se trouvait hors d'état de payer obtenait facilement un délai de 2 ans et même jusqu'à un terme de 5 années. En France, suivant l'ordonnance de 1669, les juges, même souverains, ne pouvaient donner ni répit ni délai de payer si ce n'était en vertu de lettre du grand sceau appelée « lettre de répit ». À Rome encore, les qualités de créancier et de débiteur réunies dans une même personne opéraient une confusion d'actions qui amortissaient la dette de quelque côté qu'elle se trouvât exister, ce que mon oncle définit si bien sous la qualification d'embrouillage. Enfin, l'on trouve dans l'Histoire générale des voyages quantité d'usages singuliers sur la manière dont on traite les débiteurs dans plusieurs gouvernements. On rapporte que dans la Corée, le créancier a droit de donner chaque jour 15 coups de bâton sur les os des jambes du débiteur qui n'a pas payé à l'échéance et que les parents sont tenus de payer les dettes de leurs alliés. En France, les choses se passent à l'inverse, car il n'est pas rare de voir les créanciers recevoir des coups de bâton de la part des débiteurs et les parents renier les dettes et par conséquent ne les pas payer, même de leurs plus proches alliés. Fin de la section 7, enregistrée par Ezoa en Belgique en mai 2010. Huitième section de l'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou, par le baron de Lempezé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Cinquième leçon. Qualités nécessaires aux consommateurs, quels qu'ils soient et sans argent, pour mettre à profit les préceptes enseignés par mon oncle et s'acquitter avec ses créanciers. Qualités physiques et morales, leur nombre et leur nature, de la santé et de l'aplomb, réflexion, exemples faciles à mettre en pratique. Un consommateur sans argent qui a des dettes et des sentiments, et par-dessus tout cela, le vif désir de satisfaire ses créanciers, doit, avant tout, être richement doté par la nature, puisqu'il ne l'a pas été de même par la fortune. Avant que de rien entreprendre, il devra se soumettre à un examen sévère de toute sa personne. Cet examen devra rouler sur deux points principaux qui sont, premièrement, la connaissance parfaite de ses qualités physiques, deuxièmement, idem de ses qualités morales. Cet examen de la plus grande importance exigera de sa part la plus sévère impartialité, car, s'il n'y prend garde, la moindre indulgence pourrait le conduire à de funestes conséquences ou, qui pis serait, lui faire prendre la route de Sainte-Pélagie, où il irait tout à son aise repasser ses premiers examens. Ainsi donc, qu'il ne se délivre pas trop légèrement un diplôme. Je crois donc devoir lui indiquer, pour les qualités physiques, 18 de ces mêmes qualités sur lesquelles il ne saurait trop s'appesantir, et, pour les qualités morales, 8 seulement, qu'il ne saurait jamais trop perfectionner, si déjà elles ne sont arrivées au degré voulu. Les qualités physiques se composent de savoir 1. Une santé de fer, c'est une des plus importantes, et j'en dirai quelques mots ci-après. 2. De 25 à 45 ans d'âge, terme moyen 36 ans. 3. Taille de 5 pieds 5 à 7 pouces. 4. Tête régulière. 5. Yeux vifs et perçants, noirs ou bleus. 6. Nez fin. 7. Bouche grande et ornée de ses 32 dents, toujours bien entretenue. 8. Cheveux courts, noirs, châtains ou blonds, mais noirs de préférence si l'on peut. 9. Favorise épais. 10. Les épaules de 18 pouces de diamètre. 11. Reins solides. 12. Bras longs et vigoureux. 13. Poigne d'airain, les ongles toujours courts. 14. Cuisses rebondies. 15. Jarret de serre. 16. Mollet de 14 pouces de circonférence. 17. Pied léger. 18. Enfin, une force d'Hercule. J'ai dit tout à l'heure que la santé était une des qualités physiques les plus nécessaires. C'est la vérité. Car si vous pouvez atteindre l'âge de 70 ou 80, ou ce qui est le nec plus ultra de 90 ans, il y a 45, qui est le terme moyen, à parier contre un, que vous enterrerez les 44-45e de vos créanciers. Or, j'ai dit et prouvé que la mort d'un créancier était un des moyens d'amortissement naturel indiqués par mon oncle. Et certes, votre créance ainsi acquittée, le créancier ne peut vous en vouloir. Car de même que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, un débiteur ne peut désirer celle de son créancier, attendu que, d'après le principe, moins on a de créanciers, moins on a de ressources. Ce sont là, j'espère, de bonnes et solides qualités, des qualités tout à fait privilégiées, et je dis privilégiées parce que, pouvant les acquérir facilement par l'exercice et un régime irrelatif, on peut s'en défaire de même. Je défie, monsieur le ministre des Finances, de vous assujettir à un droit d'enregistrement. En un mot, ces avantages qui sont de véritables propriétés sont de nature insaisissable par les créanciers, la nature seule pourrait mettre opposition à leurs revenus. Quant aux qualités morales, elles peuvent se ranger à peu de choses près dans la même catégorie. J'en reconnais 8 indispensables et qui doivent se classer ainsi. Savoir 1. De l'aplomb. C'est la plus importante de toutes. Je le prouverai ci-après. 2. Une présence d'esprit continuelle. 3. Une mémoire de créancier. 4. Le sang-froid d'un de nos anciens grenadiers. 5. Un courage à toute épreuve. Ce qui est à peu de choses près la même chose, sauf les nuances. 6. Une patience de garde-malade. 7. Une adresse sans exemple à tous les jeux ou à tous les exercices. Qualité extrêmement importante et pour la possession de laquelle il est bon de prendre des leçons des grands maîtres pour pouvoir en donner à son tour lorsque l'occasion s'en présente. 8. Enfin, une fin de loup. Cette dernière qualité morale n'est réputée telle que depuis très peu de temps. Mais enfin, les autorités qui l'ont prouvée journellement ne laissent à cet égard aucun doute, surtout depuis qu'une d'elles a démontré, clair comme le jour, que les grandes pensées viennent de l'estomac. J'ai dit tout à l'heure que l'aplomb était, de toutes les qualités morales, la plus importante. C'est plus qu'une qualité. C'en est 10, 20, 100, 1000, etc. C'est même une vertu. Avec de l'aplomb seul, on peut facilement remplacer les 6 qualités morales indiquées. En effet, qu'est-ce que la présence d'esprit ? De l'aplomb dans les idées. Qu'est-ce que la mémoire ? De l'aplomb dans les souvenirs. Qu'est-ce que le sang-froid ? De l'aplomb avant le danger. Qu'est-ce que le courage ? De l'aplomb pendant l'action. Qu'est-ce que la patience ? De l'aplomb dans les désirs. Qu'est-ce que de l'adresse ? Encore une espèce d'aplomb dans les gestes et les mouvements. Il n'y a donc que la 8e qualité morale qui ne puisse se remplacer par de l'aplomb. C'est la faim. Au fait, un estomac vide ne peut entreprendre ni soutenir de grandes choses. L'aplomb consiste principalement à laisser sans réplique tout ce qui ressemble à un raisonnement ou à une question, à nier l'évidence, à soutenir l'impossible, en un mot, à donner à tous les faits et à tout ce qui a le caractère de preuve, un démenti robuste et laconique. Non, si, cela est, cela n'est pas, c'est impossible, c'est possible. Tel est le court glossaire du langage de l'homme qui a de l'aplomb. Exemple. Un premier créancier va vous soutenir que vous n'avez pas le sou pour le payer. N'allez pas vous époumoner pour lui prouver le contraire. Répondez tout simplement « C'est possible ». Et votre homme reste muet. Il est content. Un second créancier, auquel vous avez promis de rendre une somme de « qu'il vous a prêté », se hasarde à vous dire que vous lui avez manqué de parole. N'allez pas lui raconter pourquoi ou comment vous vous trouvez embarrassé. Répliquez-lui tout bonnement « Cela se peut ». Il n'hésite pas. Donc, il est satisfait. Un troisième créancier, votre propriétaire par exemple, vient vous faire une visite en profitant de la circonstance pour vous apporter sa quittance. Regardez-le avec un air indécis, accompagné d'un « c'est impossible ». Il vous soutient le contraire, sa boîte à tabac et à almanach à la main. Un homme sans aplomb querellerait sur le taux du loyer ou les jours de grâce. Un homme qui en a répond hardiment « Mais non !» Si le propriétaire est mal élevé, il se fâche et menace de faire vendre les meubles. Vous lui objectez un « Je ne le crois pas !» Il se vexe et instrumente. Mais les meubles ne sont pas en votre nom. Il l'apprend, se vexe de nouveau, et cette fois vous avez doublement raison en lui répondant « C'est possible !» Il n'a plus rien à dire et s'en va. Mais la question de savoir si, dans cette circonstance, il est satisfait ou non, est encore indécise. Cela dépend de l'acabit du propriétaire. Enfin, avec de l'aplomb, vous commandez la confiance, vous passez pour un garçon ferme et prudent. Cependant, n'allez pas croire que cette sublime qualité puisse vous empêcher d'aller à Sainte-Pélagie, parce que si l'aplomb est permis aux débiteurs, il n'est pas défendu aux créanciers. Fussiez-vous logé, rue de la Clef, il est de votre dignité et de votre politique de ne répondre à celui qui vous montrerait les verrous et les grilles de votre modeste cellule que « c'est possible ». Telles sont les 18 qualités physiques et les 8 qualités morales, en tout 26 qualités, qui vous sont absolument nécessaires pour pouvoir vous acquitter avec vos créanciers d'une manière satisfaisante sans leur donner un sou. Si vous ne les possédiez pas toutes les 26 intégralement, vous auriez tort de suivre ce système financier et feriez encore mieux de n'avoir ni dette ni créancier. Fin de la section 8, enregistrée par Ezoa en Belgique en mai 2010. Neuvième section de l'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou, par le baron de Lempezé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Sixième leçon. Disposition générale. Vérité incontestable. Choix d'un quartier. Du logement. Des portiers. Du propriétaire. Du mobilier. Connaissances qu'il faut avoir en physique. Des domestiques. D'une femme de ménage. Conseils à suivre. Quiconque n'a pas d'argent est bien forcé de vivre à crédit. S'il n'en a pas, il faut qu'il s'en fasse, et quand il s'en sera fait, il en aura beaucoup plus qu'il ne lui en faudra pour ses consommations habituelles. Voilà une idée qui sans doute va étonner un grand nombre de mes lecteurs déjà endettés, ou auxquels on doit beaucoup depuis longtemps, mais ce n'est pas ma faute s'ils n'entendent rien à la profession de producteur et de consommateur. Pour arriver parfaitement au but que mon oncle a proposé, il faut, suivant son dicton, savoir raisonner son affaire. Or, qu'est-ce que savoir raisonner son affaire? C'est savoir se loger, se nourrir, se vêtir, se divertir, en un mot, s'entretenir, sans rien devoir, ni sans débourser un sou. Parmi ces choses, il en est de plus ou moins nécessaire, de plus ou moins indispensable. En suivant l'ordre de leur nécessité, nous commencerons donc par la première de toutes, qui est le logement. Le choix du quartier de la capitale que vous devez prendre pour y élire domicile n'est pas une chose de peu d'importance, et vous devez le choisir à un point tel que sa situation établisse entre vous et vos créanciers une distance de 2 lieues au moins. Or, comme vos créanciers peuvent se trouver disséminés dans chacun des 12 arrondissements de Paris, vous ferez bien de vous loger, si cela vous est possible, extramuros, c'est-à-dire au-delà de la barrière, en choisissant celle qui aboutit au quartier où vous avez le moins de créanciers. Vous devrez faire connaissance avec le portier chargé de la garde de la maison que vous avez l'intention d'occuper, même avant d'y avoir arrêté un appartement. Peu de consommateurs pourraient se faire une idée précise de l'énorme influence que les portiers exercent sur nos destinées, puisqu'ils peuvent nous nuire ou nous servir, selon leurs caprices ou le degré de capacité dont ils sont doués, de 8 manières différentes, et de cette manière. Premièrement, dire que nous sommes chez nous lorsque nous n'y sommes pas. Deuxièmement, dire que nous ne sommes pas chez nous lorsque nous y sommes, ce qui est quelquefois pis. Troisièmement, refuser les lettres et paquets qui peuvent nous être adressés. Quatrièmement, recevoir les assignations et autres correspondances de même genre lorsqu'ils pourraient s'en dispenser. Cinquièmement, inspecter notre conduite et en tirer des conséquences. Sixièmement, faire manquer une affaire majeure par la manière dont ils auront répondu lorsqu'on se sera présenté chez eux relativement au chapitre des renseignements. Septièmement, ne pas vouloir se réveiller le matin pour tirer le cordon lorsque nos affaires ou l'état de notre santé nous forcent à prendre l'air 5 minutes avant le jour. Huitièmement, enfin, ne pas ouvrir le soir lorsque l'on rentre un peu trop tard, quoiqu'on ait frappé 10 fois et qu'il vous ait parfaitement entendu, ce qui entraîne une suite d'inconvénients incalculables. En effet, de quel contresens ne voyons-nous pas chaque jour un portier se rendre coupable? Ces propos peuvent changer une réputation du tout au tout. Seriez-vous dans le monde un modèle animé de l'Apollon du Belvédère? Chez le portier, vous êtes un nouvel Ésope. Si le nom de quelque locataire finit par une terminaison semblable au vôtre, il envoie à celui-ci l'argent que vous avez emprunté et que l'on a déposé chez lui pour vous. Il envoie à celui-là un billet doux qui vous était destiné, et le voisin va au rendez-vous à votre place. Vient-il un créancier? Il se gardera bien de dire que vous venez de sortir à l'instant. Votre maîtresse est-elle parvenue à s'échapper un moment pour venir vous trouver? Le portier prétend que vous n'êtes pas rentré la veille. Enfin, la négation « non » au lieu de l'affirmation « oui » et vice-versa, vous êtes un homme perdu. Sachez donc plaire au portier avant même d'avoir fait votre première visite au propriétaire. Tâchez surtout de vous en faire un ami et de vous mettre bien avec sa femme, s'il en a une qui ne soit ni trop vieille, ni trop sale, ni trop bavarde, ni trop curieuse, ce qui est très rare, je l'avoue. Mon oncle, qui avait prévu tous ces cas, conseille de prendre, de préférence, un logement dans une maison qui n'a pas de portier. Cette circonstance offre souvent de grands avantages, mais aussi elle n'est pas sans inconvénients. c'est à vous d'examiner attentivement votre position et de voir quel est celui de ces deux cas qui peut vous offrir le plus de ressources. Quant au choix du logement, c'est encore une partie non moins essentielle. Jamais d'appartement au-dessous du quatrième au-dessus de l'entresol et toujours sur le devant. De là, vous pouvez, en vous mettant à la fenêtre, dominer sur tout ce qui vous entoure. Un créancier s'est-il décidé à s'acheminer vers votre demeure? Il vous apparaît d'un demi-quart de lieue comme un point sur l'horizon. Déjà, vous savez à qui vous avez affaire. Bientôt, il grossit en s'avançant. Vous l'avez reconnu. Vous avez encore 5 minutes pour décider de quelle manière vous devez en agir à son égard. Une bonne lorgnette, une longue vue deviennent, dans cette circonstance, un meuble de la première utilité, puisqu'il vous fait gagner du temps en mettant à votre disposition 10 minutes de plus pour réfléchir. Mon oncle avoue qu'il faillit une seule fois être conduit à Sainte-Pélagie. Encore était-ce à la place d'un autre, parce qu'il avait commis la fatale imprudence de se loger au premier, sur le derrière, dans une maison du quartier du Palais-Royal. Il ajoute, très judicieusement, qu'une lieue et demie de chemin et 138 marches à monter affaiblissent prodigieusement les forces et la mauvaise humeur d'un créancier. En effet, arrivé à votre porte, épuisé, rendu, ce n'est plus de l'argent qu'il vous demande, c'est une chaise et un verre d'eau. On sait que l'un et l'autre sont faciles à procurer, même coup sur coup. Quant au mobilier, il est un préjugé généralement répandu parmi la plupart des consommateurs. C'est qu'il faut qu'ils aient un entourage somptueux pour en imposer à leurs producteurs et leur inspirer de la confiance. Cette idée était bonne du temps de Charles Martel et de Pépin le Bref, où un siège sur lequel on pouvait s'asseoir passait pour un chef-d'œuvre d'industrie. Mais maintenant que l'on fait des lits sur lesquels on peut dormir debout sans se coucher, tout cela n'en impose plus, et ce luxe n'est propre qu'à étonner les enfants. Ainsi donc, votre mobilier ne doit être composé que de très peu de choses, mais de choses originales et propres à fixer l'attention de ceux qui seraient à même de l'examiner en attendant mieux. Meublez-vous par la mécanique, éclairez-vous par le gaz hydrogène, et défendez-vous de l'approche de l'ennemi par la physique. Mon oncle a fait cet essai avec un rare bonheur sur ses créanciers. Il avait une machine électrique d'une assez jolie dimension et observait toujours de la tenir abondamment chargée du mystérieux fluide. Il l'avait mise en communication avec la clé de sa porte d'entrée par un fil conducteur. De l'aspect de cette clé, constamment sur sa porte, il en retirait un sentiment de confiance sans bornes, parce que, lorsqu'un créancier impatient venait à mettre la main dessus pour entrer chez lui, il recevait une commotion violente qui le livrait en proie à des sentiments confus d'engourdissement et de sorcellerie. Il était rare qu'un créancier, quelque brave ou quelque entêté qu'il fût, se frottât une seconde fois à venir prendre une leçon de physique expérimentale, bien qu'il lui eût expliqué très clairement les effets résultant des causes et les causes résultant des effets en physique. Quant au choix d'un domestique, c'est une affaire trop délicate dans une position semblable en tout point à celle où je souhaite que vous vous trouviez pour parvenir sûrement à votre but. Il vaut infiniment mieux se servir soi-même. Je ne vous engagerai donc pas non plus à prendre une femme de ménage. La portière ne le verrait que d'un très mauvais œil, et on sait ce que c'est que l'œil d'une portière mécontente. Vous vous ressentiriez nécessairement du contre-coup de sa mauvaise humeur. Si vous ne pouvez vous astreindre à ces soins du ménage, dont un consommateur habitué à toutes ses aises ne peut se passer, faites d'une pierre deux coups, et choisissez de préférence votre portière ou sa fille si elle est jeune et adepte, parce que son père et sa mère se ressentiront à leur tour du contre-coup de vos générosités et de vos bonnes grâces à l'égard de leur fille. En elle, vous trouverez un défenseur officieux et un puissant auxiliaire pour repousser les invasions de l'agent créancière. Fin de la section 9. Enregistré par Ezoie, en Belgique, en mai 2010. Dixième section de l'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou, par le baron de Lempezé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Septième leçon, manière de vivre. Dicton de mon oncle, cas que l'on doit toujours prévoir. Principe invariable, fournisseurs de tous genres auxquels on doit accorder la préférence. Crainte mal fondée. Emploi de la journée d'un consommateur qui sait raisonner son affaire. Biens immenses occasionnés au commerce. Résultat. J'ai souvent entendu dire à mon oncle qu'il fallait bien se garder de dépenser la veille tout l'argent qu'on pouvait avoir en sa possession, quelque certitude que l'on ait d'en avoir le lendemain, parce qu'il arrivait presque toujours, par des « causes fortuites et indépendantes de la volonté du consommateur », causes que l'on ne pouvait ni prévoir ni empêcher, que ses rentrées étaient ajournées, ou ne rentraient pas du tout. Or, personne ne sait mieux que moi combien mon oncle avait raison. Supposons donc que ce cas arrive, et voyons quels sont les moyens de salut à y opposer. Il repose sur un seul principe dont vous ne devez, dans aucun cas, comme sous aucun prétexte, vous écarter. Ce grand principe, le voilà. Vous devrez toujours vous fournir de préférence chez les pourvoyeurs riches. Premièrement, parce qu'ils ont tout de première qualité. Deuxièmement, parce que vous devez mettre en pratique le principe tant de fois répété que ces individus ayant trop et vous pas assez, c'est un véritable service à leur rendre et à vous aussi que de chercher à rétablir l'équilibre. Et personne plus que vous ne doit y être intéressé. Troisièmement, parce que le vide que vous opérerez dans leur magasin restera presque inaperçu, et quand même ce vide sera bientôt comblé par la clientèle payante que votre consommation saura y amener. En conséquence, vous ferez choix d'un propriétaire chez lequel tout puisse abonder et qui n'attende pas après vos 100 écus de loyer pour pouvoir aller payer ses impositions. Il est à la connaissance de tous les locataires qu'il existe des propriétaires riches dans tous les quartiers de Paris. Ainsi donc, cela vous sera très facile. Vous déjeunerez au Palais Royal et dînerez sur le boulevard des Italiens. Vous allez croire peut-être qu'il faut payer dans ces maisons-là. Point du tout. Leur prospérité ne se fonde que sur les couverts ou plutôt sur les convives qui ne payent pas, parce qu'ils savent choisir leur mets, parce qu'ils savent allécher ceux qui ne savent pas se commander un dîner, mais qui savent le payer, parce qu'enfin, ils consomment beaucoup plus que les autres. Chez les restaurateurs à 21 ou 32 sous, on ne fait pas de crédit parce que tout le monde paye. Mais dans les grands établissements dont je vous parle, on a senti tout ce qu'un consommateur qui peut ne pas payer un dîner de 20 francs, qui en rapporte 30 de 10 francs qui sont payés, vaut à son producteur. Je connais de grands restaurateurs qui vous payeraient volontiers pour que vous vous tinssiez à leur table toute la journée appelant les garçons, toujours par leur nom de baptême pour se donner un air d'habitué, demandant du champagne, faisant mousser leur vin et leur réputation. Votre figure opère sur l'appétit paresseux ou économique des passants l'effet d'une glace avant le dîner, et ils sont saisis d'une faim engloutissante. Quant à vous, après avoir pris tout ce qu'il est possible de prendre, vous vous levez, et portant négligemment votre main au bouton doré de votre habit, comme pour chercher votre bourse dans la poche de votre gilet, vous en tirez un cure-dent. Aussitôt le maître de la maison vous fait un signe de tête respectueux et reconnaissant tout à la fois, pour vous épargner un soin qu'il considérerait comme un affront. Vous adressez en passant un petit salut ou un coup d'œil à la dame du comptoir, et la grâce de ceux qu'elle vous rend indique assez qu'elle se croit encore trop payée par l'excellent appétit dont vous avez donné un exemple aussi bien soutenu qu'imité. Plaisanterie à part, il est de fait que les premiers restaurateurs de la capitale comptent par jour une demi-douzaine de consommateurs de cette force sur les principes. Vous ne vous habillerez pas autre part que chez Bard, parce que ce gaillard-là, qui habillerait toute l'armée française en 24 heures, sur la parole de monsieur le ministre de la guerre, peut bien vous faire un habit, deux pantalons, quatre gilets, sans que vous lui donniez la vôtre que vous le payerez aussitôt leur confection. Notez que, si par hasard il va chez vous, ce ne sera que pour vous demander si vous voulez qu'il vous fasse une polonaise ou un manteau, au même prix. Vous vous chausserez chez Sakoski. Il chausse tous les fashionables et monsieur le ministre des Finances. Jugez s'il hésitera à vous prendre mesure et à vous offrir un compte courant sur son grand livre. Quant à votre linge, vous vous fournirez chez la lingère de la cour. Mieux que personne, elle connaît les avantages du crédit, et lorsqu'on en fait, un de plus ou un de moins, n'occasionne que peu de frais de différence. Quand même, vous vous perdrez facilement dans la foule des consommateurs de ce genre. Tels sont les producteurs que vous devrez rechercher, parce que ce sont là les seuls que vous pourrez payer sans débourser un sou, attendu que de belles paroles pour eux équivalent à de l'argent comptant. N'allez pas croire qu'un consommateur tel que celui dont je veux parler, pour pouvoir payer les dettes que lui feront contracter ses consommations journalières, soit forcé de se courber tristement sur le métier d'une manufacture ou débarquer quotidiennement des marchandises sur les ports Saint-Paul ou Saint-Nicolas. Il n'ira pas, par une chaleur du mois de juillet, rentrer ses récoltes, ou, au cœur de l'hiver, accélérer des semences. Il ne se creusera pas la tête pour améliorer les produits divers que nous offrent généreusement toutes les bêtes à cornes ou sans cornes qui sont en France et autres lieux. il ne passera pas son temps à enrichir d'un châle, d'un fourneau économique ou d'un rasoir à l'épreuve l'exposition de nos produits. Il n'emploiera même pas la journée à reproduire sur une toile que sa main saura rendre vivante les traits d'un des défenseurs de nos libertés ou la nature prise sur le fait, soit dans les bois de Meudon ou dans celui de Montmorency. Il ne passera pas sa soirée à accompagner de son violon, de sa basse, de sa flûte ou de son cor les artistes de nos royaux théâtres qui chantent fausses ou ne dansent pas en mesure. Enfin, il n'usera pas les trois quarts de sa vie, rue de Rivoli, à additionner de longs bordereaux. Il ne fera rien de tout cela. Mais parce qu'il ne plantera pas, ne fabriquera pas, ne peindra pas, ne fera pas de musique et n'additionnera pas, ce serait une erreur de croire qu'il ne travaillera pas, qu'il ne produira pas, qu'il ne consommera pas et qu'il ne payera pas, mais toujours à la manière de mon oncle. Voici au surplus, pour arriver au résultat désirable par tous les consommateurs pour lesquels il a rassemblé les matériaux de son ouvrage, la conduite et le genre de vie qu'ils devront tenir et suivre, et le tableau des biens généraux qu'ils opéreront par sa méthode. Premièrement, le consommateur, quel qu'il soit, ne se lèvera pas avant 10 heures, et par cette heureuse indolence, il diminuera l'encombrement des commis, blanchisseuses, commissionnaires, cabriolets, oisifs, etc., etc., qui obstruent chaque matin les rues les plus fréquentées et par conséquent les plus sales de notre belle capitale. Premier bien. Deuxièmement, il donnera audience à tous ses créanciers indistinctement de 10 à 11 heures, les écoutera et mettra en pratique les préceptes enseignés dans ce manuel. Pendant ce temps, les créanciers qui feront chez lui antichambre en attendant son lever ne seront pas chez d'autres consommateurs également débiteurs, et cet avantage retombera sur la masse. Second bien. Troisièmement, il recevra tous ses fournisseurs de 11 heures à midi, gardera par devers lui ce que les uns lui apporteront, commandera quelque chose de nouveau à ceux qui n'auraient rien apporté. De cette manière, il les tiendra en haleine, augmentera son crédit et poussera à la consommation. Troisième bien. Quatrièmement, il s'habillera de midi à 1 heure, entendra sa cravate comme un ange, au moyen de ma théorie raisonnée de cette importante partie de notre habillement. Il poussera ainsi au débit de cet ouvrage chez le libraire et à l'écoulement des mousselines, du jaconin, de la percale et de la batiste de nos manufactures. Quatrième bien. Cinquièmement, à 2 heures, il ira déjeuner au café du Perron, où, par la délicatesse du choix qu'il fera sur la carte, il provoquera encore à la consommation en mettant à la mode les œufs en coquille et les omelettes à l'oseille, qu'il mangera avec une grâce contagieuse pour tous ceux qui, sans connaître ses mets, auront envie d'en manger. Suivant son système, il ne paiera pas son déjeuner, mais il en fera consommer 20 par des habitués qui ne prennent ordinairement qu'une tasse de café sans beurre et qui, insensiblement, se laisseront aller au déjeuner à la fourchette, entraînés par son exemple. Le maître du café sera très content des 20 déjeuners payés et très satisfait du consommateur qui lui aura ainsi payé le sien, quoique sans argent. Cinquième bien. Sixièmement, il ira aux Tuileries attendre nonchalamment l'heure du dîner. Les 2 ou 3 chaises dont il se servira, sans les payer, pour étendre sa paresse, seront très fructueuses à la loueuse qui en a l'entreprise. Par la manière dont il sera assis, il invitera les promeneurs au repos. En un instant, toutes les chaises seront occupées et payées. La loueuse fera recette et le remerciera. Sixième bien. Septièmement, une beauté, suspecte ou non, soupirant dans une contre-allée après l'espoir d'un dîner, viendra passer près de lui. Il s'extasiera sur sa taille, sa démarche et son genre qu'il trouvera bon. Un Anglais qui ne s'y connaîtra pas fera la même remarque et se détachera pour lui offrir son bras, un dîner et sa bourse qui seront acceptés. Il aura répandu le numéraire de l'Anglais dans le commerce de France. Septième bien. Huitièmement, à 6 heures, il emmènera quelques amis dont il ne sait pas le nom dîner chez son restaurateur d'habitude. Il le met en vogue d'un seul mot. « Garçon, des huîtres vertes, de la tisane de champagne frappée, des perdrix aux truffes, etc., etc. Il mangera comme 4, boira comme 6 pendant 2 heures. Quel fécond résultat n'aura pas sa digestion après que les amis auront payé leurs cartes. Le restaurateur sera enchanté en se décidant bien à ne jamais demander un sou à un si précieux consommateur. Les huîtres qu'il aura fait enlever de chez les factrices de la rue Montorgueil feront faire queue le lendemain chez elles pour en avoir. Les marchands de vin de Reims et d'Épernay ne pourront suffire aux demandes de tisane qui leur seront adressées de toutes parts. la population du Périgord, si occupée à la recherche de la truffe, redoublera d'activité. La vallée se garnira comme aux approches des élections, le marché de Poissy sera mieux fourni, la chandelle diminuera, la bougie augmentera, et les tanneurs n'attendront plus après la peau des bêtes pour faire des cuirs. Huitième bien. Mais que de biens en un seul! C'est parce qu'il est opéré par un individu qui a étudié à fond toutes les théories de mon oncle et qui sait parfaitement les mettre en pratique. Fin de la section 10, enregistrée par Ezoa en Belgique en mai 2010.
Fall into big savings, all in the Kroger app. Get packs of juicy red, green, black, or tri-color variety seedless grapes for $3.99 each. Then get tender boneless chuck roast or steaks for $4.99 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.